Père Céleste, tu nous as rappelé ce matin que tu étais avec nous, quoi qu'il arrive. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que c'est ce que nous pouvons remarquer dans chacune de nos vies. Merci parce que tu as un chemin pour chacun d'entre nous et merci aussi parce que tu es toujours à nos côtés. Seigneur, nous voulons te remettre Aurélien ce matin. Merci pour sa présence. Merci de l'avoir protégé sur la route. On te prie aussi pour le retour pour lui et pour toute sa famille. Je te prie aussi pour son ministère là-bas à Gap et son ministère aussi national qui commence. Et on te prie de le bénir particulièrement et de l'équiper en toutes choses. Merci pour sa présence. Amen.
Amen. Bonjour. Merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Aurélien Castelin. Je suis pasteur à l'église de Gap, une jolie ville que vous connaissez peut-être. Voilà, je me suis levé tôt ce matin pour être ici. Et quoi dire, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis membre de la CSR, donc, et on va commencer ce soir trois jours de réunion, donc jusque mercredi soir, et donc je serai chez moi jeudi matin. Mais vous pouvez prier pour ça. Et ma journée a pas bien commencé. Parce que j'avais vraiment envie d'un café. Vous voyez, quand on part à 6 heures du mat, on a vraiment envie d'un café. Et j'ai pris un café et je l'ai posé sur le tableau de bord de ma voiture. J'ai démarré un peu trop vite. Et mon café est tombé sur ma chemise et mon pantalon. Voilà, mais j'ai pu m'arrêter. Je voulais juste vous raconter cette petite anecdote parce que c'était juste trop pas de bol. Mais je suis avec vous quand même et donc ça, c'est chouette. J'avais à cœur ce matin de vous emmener faire un petit tour dans l'Exode, le livre de l'Exode. Si vous n'avez pas de Bible, ça risque d'être problématique. J'aimerais faire un survol des chapitres 3 et 4. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a là-bas au fond, ne vous gênez pas. Ou si vous avez une Bible sur votre smartphone, je vous invite vraiment à la prendre. Sinon, ça risque d'être compliqué pour vous. Quelle version ? N'importe laquelle. Ah, moi c'est voilà, celle-là, second 21, classique. Alors, juste en introduction, rappelez-vous, en Genèse chapitre 15, verset 5, Genèse 15, verset 5, Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais lorsque les Israélites sont réduits en esclavage en Égypte, vous savez, on sait ça en Exode chapitre 1, on pourrait croire, nous lecteurs de la Genèse, on pourrait croire que cette promesse va être sérieusement mise à mal. En effet, le pharaon de l'époque, qui n'avait pas connu Joseph, nous dit, Exode chapitre 1, a mis en place un plan génocidaire à l'échelle nationale pour réduire le peuple hébreu de manière considérable afin de le garder sous son contrôle et éviter sa sortie du pays. Toutefois, Dieu est fidèle et souverain. Deux constats qui ressortent fortement du chapitre 1 et 2 du livre de l'Exode. Dieu est fidèle et souverain. C'est lui le boss. Les coulisses de l'histoire, et on ferait bien de se le rappeler aujourd'hui, dans ce monde tellement déstabilisant, les coulisses de l'histoire sont dans sa main. Amen. Et par une succession d'événements improbables, chapitre 1 et 2 de l'Exode, le peuple continue à croître, fidèlement aux promesses de Yahvé. Et plus encore, sous le nez du roi d'Égypte, le départ des Israélites se prépare. Une deuxième promesse faite à Abraham est sur le point de s'accomplir. Ta descendance sera en esclavage, mais moi je les sortirai. Genèse 15. Face à laquelle Pharaon restera impuissant totalement. Je vous invite à lire Exode 3, versets 1 à 10. Exode 3, versets 1 à 10. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Et Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression qu'ils leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Amen. Chapitre 3, le temps de l'accomplissement a sonné. Accomplissement de la promesse de Genèse 15. Avec le Seigneur, il y a un temps pour les promesses et un temps pour accomplir les promesses. Il est donc temps d'appeler l'enfant élu, sauvé des eaux, Moshé, Moïse, pour conduire un exode historique. Faire sortir, oui, vous entendez bien mes amis, faire sortir environ 2 millions de personnes d'un des plus puissants royaumes du monde antique. Il est temps d'appeler celui qui a été élevé à la cour du Pharaon, mais qui a dû fuir à cause du meurtre qu'il a commis sur un Égyptien. Vous vous rappelez de ça? Il a tué un Égyptien parce qu'il frappait un Israélite et il a dû fuir. Et il a trouvé refuge au pays de Madian. Alors il faut appeler Moïse, celui qui depuis sa fuite est devenu berger, celui qui s'est marié, qui a eu des enfants, qui s'est trouvé une nouvelle famille, qui s'est épanoui dans un pays. Il faut donc appeler quelqu'un, mes amis, qui est dans un endroit confortable, pour lui dire, retourne dans le pays de tous les dangers. Cet appel a lieu un jour banal dans la vie d'un berger. Il sort et il voit un phénomène exceptionnel, surnaturel, un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Alors ça l'intrigue. Il décide de s'approcher. Et c'est là qu'il va rencontrer le Seigneur. Et quelle révélation! Quelle révélation de Dieu! Ce qui me frappe dans l'Exode, mes amis, et j'espère que vous allez être motivés à le lire cet après-midi peut-être. Ce qui frappe dans l'Exode, c'est les révélations de Dieu. Première révélation qu'on voit dans les chapitres 1, le verset 1 à 10, Dieu est transcendant. Il est au-dessus, mais il est aussi proche. Il est immanent. Il est relationnel, ton Dieu. C'est un Dieu d'alliance. Regardez verset 6. Verset 6. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai fait alliance, je me suis engagé avec eux. Deuxième point, Dieu est proche, mais ce n'est pas notre pote. Dieu est proche, mais ce n'est pas notre pote. Moïse doit enlever ses sandales. S'approcher de lui, c'est comprendre sa sainteté. Comprendre le privilège de rentrer en relation avec Yahvé. Troisième point, verset 7. Nous découvrons un Dieu qui entend. J'ai entendu, je connais les souffrances de mon peuple. Quatrième point, ce Dieu révèle son nom. Chapitre 3, verset 14, regardez. Chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis, ou celui qui est, ou je suis qui je suis. Bref, je suis Yahvé, l'être suprême, qui n'a pas de fin, l'être qui est autosuffisant, l'épisode du buisson qui brûle sans qu'il se consume, ne nous dévoile-t-il pas d'ailleurs la vie que Dieu a en lui-même ? La vie que Dieu a en lui-même. Cinquième point, verset 19, verset 20 du chapitre 3, regardez dans vos Bibles, Dieu se révèle omniscient. Dieu se révèle omnipotent. Je vois, j'ai vu, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. Je le sais. Mais je vous délivrerai, j'interviendrai, verset 20. Il peut même tourner les cœurs des gens selon ce qu'ils désirent, verset 21. Regardez, je gagnerai même la faveur des Égyptiens. Je gagnerai la faveur des Égyptiens. Et sixième point, aussi surprenant, et je suis complètement baba comme vous, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, mes amis, ce Dieu qui peut tout appelle des hommes comme nous pour participer à son plan. Ça me dépasse totalement, mais c'est la réalité. Et c'est mon deuxième point, le candidat Moïse. Le candidat Moïse. Alors, quand on lit ça, on se dit... Purée, quel gaillard va-t-il trouver pour mener tout ça ? Pour cette mission hors du commun, pour relever un défi pareil, eh bien mes amis, un gars au début de l'Exode, bien faiblard, atteint, vous savez Moïse, il a atteint du syndrome, quoi ? Moi ? Vous le connaissez ce syndrome-là ? Moïse a l'air d'avoir une piètre au piment de lui-même. Chapitre 3, verset 11. Regardez dans vos Bibles. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon ?» Cette réaction de Moïse est peut-être liée. Vous vous rappelez, si vous connaissez bien le livre de l'Exode, quand il tue l'Égyptien, un Israélite lui dit quoi ? Chapitre 2, verset 14. « Qui tu es, toi ?» pour te mêler de nos affaires. T'es qui, toi ? Première parole qu'il dit à Dieu quand il l'appelle, « Qui suis-je, moi ?» Ce rejet a peut-être laissé des traces dans sa vie. Candidat Moïse n'est pas non plus le plus hyper sérieux au début de l'Exode. Chapitre 4, verset 24 à 26, regardez. Chapitre 4, verset 24 à 26. Celui qui est choisi par Dieu n'a pas fait circoncire son enfant. Il n'a pas obéi au commandement de Genèse 17, verset 9. Tu feras circoncire ton premier-né. Comment peut-il conduire le peuple de l'Alliance, lui amener la loi, Exode 20, sans s'appliquer lui-même le béaba des ordonnances du Seigneur ? Alors Dieu, chapitre 4, cherchera à le faire mourir. Cherchera à le faire mourir, ça nous dépasse, hein. Et c'est Séphora qui lui sauvera la vie en effectuant ce que lui, en tant que chef de famille, aurait dû faire. Moïse, pour y aller, est obligé de revoir sa copie sur ce que c'est être un bon leader. C'est montrer l'exemple. Il ne peut pas être léger sur des choses fondamentales et aller conduire le peuple de Dieu. La vocation de Moïse, mes amis, c'est l'histoire d'un bras de fer. Si vous lisez chapitre 3 et 4 déjà cet après-midi, vous allez voir qu'il y a un bras de fer entre lui et Dieu. Oui, mais moi qui suis-je ? Et je vous invite à comprendre que ce bras de fer se passe en 5 actes. 5 actes. Regardez dans l'Écriture, chapitre 3, verset 11. « Qui suis-je ? » Constatons que face à ce doute, Dieu ne lui dit pas, « Dieu ne lui dit pas, écoute, ne t'inquiète pas Moïse, tu es quelqu'un de formidable. Tu peux le faire parce que tu es capable. Dieu ne lui propose pas quelques séances d'hypnose ou de sophrologie pour régler ses problèmes d'assurance. Qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle est la thérapie du Seigneur? Verset 12. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Le signe, c'est que c'est moi qui t'envoie. Le chemin de la victoire contre ses peurs n'est pas d'avoir plus de foi en lui, mais plus de foi en Dieu. Pas plus de foi en lui, mais plus de foi en Dieu. Deuxième acte, verset 13. Oui, mais, et s'il demande ton nom? Moi, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas y aller. Je fais quoi, moi? Alors, Dieu se révèle plus amplement. Je suis, tu leur diras que je suis Yahvé, celui qui peut tout. Je suis celui qui est. Troisième acte, chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Oui, mais ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Encore une fois, Moïse doute de sa légitimité auprès du peuple. Non, pas moi, ils vont pas me croire. Alors Dieu, regardez, à partir du chapitre 4, va lui promettre trois signes incroyables, tout sauf anodins. Tout sauf anodins. Le serpent, chapitre 4, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa, et le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Le serpent, c'est l'emblème de l'Égypte, mes amis. C'est l'emblème de l'Égypte. Je ne sais pas si vous avez été voir l'exposition Tout en Camon à Paris, mais vous allez vous rendre compte que sur la couronne des pharaons, qu'est-ce qu'il y avait? Un uraüs, c'est-à-dire un serpent. Ça manifestait toute la puissance de l'Égypte. Alors, vous voyez, quand Moïse doit répéter ça devant le peuple, Moïse attrape le serpent et il devient un bâton ou inerte. C'est la souveraineté de Dieu qui est mise en avant face à la grande Égypte. Deuxième signe, la lèpre. Regardez verset 6, chapitre 4. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine et il la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Et l'Éternel lui dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis il en retira. Et voici que la main était devenue normale. Mes amis, la lèpre, si vous feuilletez un petit peu les bouquins historiques, c'était le mal de l'Égypte. Le mal de l'Égypte. Un mal incurable qui faisait énormément de dégâts dans le pays. Alors, en être victorieux devant le peuple, qu'est-ce que ça symbolise d'après vous? La puissance de Dieu comparée à celle de l'Égypte. Et troisième signe pour Moïse qui doute, le Nil. Regardez. « S'il ne te croit pas, verset 9, alors, avec ces deux signes, tu prendras de l'eau du fleuve, du Nil, tu la verseras sur la terre et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Le Nil, c'était le cœur de l'Égypte, de son existence, de sa fertilité, de son pouvoir. Le fleuve abondait de poissons, de volailles à côté. C'était, pour les Égyptiens, le Nil, c'était le père, c'était considéré comme le père de la vie. Le peuple égyptien chantait des prières à côté du Nil, sur le long de ses rives. Alors vous savez, avoir le pouvoir de le rendre impropre à la consommation, c'est manifester qu'on peut s'attaquer à l'Égypte tout entière. Alors même avec ça, et c'est le quatrième acte, chapitre 4, verset 10, Moïse ne se laisse pas convaincre. Regardez verset 10, chapitre 4. « Oh non, Seigneur, moi je ne suis pas un homme doué pour parler. » Ça vous fait rire, hein? C'est incroyable ce qui se passe. Hein? « Non, je ne suis pas doué pour parler. » Et ça a toujours été, tu le sais bien. Moïse a un problème d'élocution. On ne sait pas trop ce que ça donnait. Et alors Dieu monte d'un ton, verset 11. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Alors maintenant, vas-y. Moïse n'a pas encore compris qu'il ne doit pas compter sur ses propres forces. Et cinquième acte, est gonflé, Moïse. Hein. Verset 13. Envoie-moi, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors vous savez, quand on lit ça, on a peur pour lui, en fait. Hein. On se dit, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Discuter à ce point avec le Seigneur, ce n'est pas sans risque. Et chapitre 4, verset 13, Dieu se met en colère. Mais contre toute attente, Dieu lui accorde une aide, son frère Aaron. Il n'ira pas seul. Alors mes amis, Moïse n'est pas présenté ici. Après, dans l'Exode, oui. Mais Moïse ici n'est pas présenté comme un exemple. Ne vous dites pas, ben Moïse il a vraiment négocié 5 fois avec Dieu, donc moi je vais négocier aussi, pour rien faire. Non mes amis, ce qui est mis en avant dans ce texte, c'est surtout l'extrême patience de Dieu, avec nous, avec Moïse. L'extrême patience de Dieu, sa grâce. Alors Dieu ne cède pas là-bas, là-dedans. Mais il fait preuve de miséricorde envers Moïse. Moïse finit par céder au bout de 5 fois. Amen. Il finit par céder, il accepte de changer ses plans. Il revient vers son beau-père Jéthro, il lui demande de partir. Il rencontre les anciens avec Aaron. Et oui Moïse, le peuple reconnaîtra ta légitimité. Oui. Et Moïse va y aller et il verra des miracles. Mais il a dû faire un détour par le buisson. Vous avez remarqué ça ? Je vais faire un détour. Et c'est là où Dieu l'appelle. Quand Moïse accepte de faire un détour. Quand Moïse accepte d'y aller, de parler au peuple. Alors Dieu déroule son plan et ses miracles. Et d'ailleurs, si vous lisez l'Exode, vous allez voir que Moïse devient un autre Moïse. Un exemple à bien des reprises après. Et même un exemple cité dans l'Écriture. Qui est en train de discuter avec Jésus lors de la transfiguration ? Qui est en train de discuter avec Jésus lors de la transfiguration, mes amis ? Ce même Moïse qui a négocié 5 fois avec le Seigneur. Quel changement! Il n'y a que Dieu qui voit comme ça dans les cœurs, qui peut faire ça. Mais Moïse a dû faire un pas de foi, il a dû sortir de son confort pour aller, écoutez bien mes amis, pour aller vers le lieu où Dieu l'attendait. Et ce n'était pas en Madian, c'était en Égypte, là où il était menacé de mort. Là où Dieu l'attendait. Alors en conclusion, mes amis, Jésus dit à ses disciples, et nous dit encore ce matin, j'en suis persuadé, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors je ne suis pas Moïse, vous avez remarqué certainement. Nous ne sommes pas les Hébreux, nous vivons à une époque différente du plan de Dieu, mais nous sommes aussi appelés. Nous sommes appelés. Mis à part grâce au Fils. Là, Moïse voit un buisson qui brûle. Et il a la révélation, je suis Yahvé. Mais Yahvé est venu en chair par le Fils il y a 2000 ans. Et ça, c'est extraordinaire de vivre à cette époque. Une révélation grandiose de Dieu. En chair, par le Fils. Et Jésus, par son sacrifice, nous a sortis non pas de l'Égypte, mais du pays du diable, du péché et de la mort. Ne l'oublions jamais. Être chrétien, ce n'est pas que recevoir ou s'asseoir sur une chaise. Être chrétien, c'est se donner, aller vers le lieu où nous sommes attendus tous ensemble. Le monde, Jean 17, où nous sommes appelés à prêcher fidèlement, à parler, à dire, à vivre l'Évangile dans sa radicalité, dans la radicalité de son appel. L'Évangile, c'est pas la bonne nouvelle des bisounours. C'est radical. Nous sommes appelés à aller parler, prêcher fidèlement dans un monde qui n'est pas l'Égypte, mais qui est hostile, souvent, insécurisant, qui ne nous est pas favorable généralement. Et j'ai l'impression, peut-être que je suis pessimiste, mais j'ai l'impression que ça va être de pire en pire. Un monde qui peut nous persécuter. Mais n'ayons pas peur. Dieu nous dit « Je serai avec vous. Je serai là. » Alors, ma question pour vous ce matin, et je vous remercie de m'avoir écouté, quelle attitude avons-nous face à cette parole du Seigneur, face à cette mission lancée pour chacun de nous et pour la communauté de Sonnera? Est-ce que vous êtes en train de vous dire « Seigneur, je ne me sens pas capable » ? Est-ce que vous êtes en train de vous dire « Seigneur, je suis fatigué » ? Vous auriez le droit. Est-ce que vous êtes en train de vous dire à cet appel ce matin « Seigneur, je suis découragé ? Seigneur, je suis apeuré ? Seigneur, je me sens pas légitime ? Seigneur, je suis déçu de moi-même ? Seigneur, je suis déçu des autres ? Seigneur, je suis petit ? Je suis faible ? » Alors entendez ce matin, mes amis, va avec les forces que tu as et tu verras Dieu agir. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous nous sentons bien faibles, tous ensemble. Nous ne nous sentons pas capables. Mais Seigneur, en fait, tu veux développer en nous la foi et non pas la confiance en nous-mêmes. Seigneur, développe en nous la foi. Fais de nous, continue à faire de nous des lumières, des témoins, malgré les oppositions, malgré les rejets. Seigneur, sers-toi de nous parce que c'est un privilège, comme on l'a entendu ce matin de la part de notre frère. C'est un tel privilège, Seigneur, que nous voulons aujourd'hui, ce matin, te dire « J'ai peur, mais je suis là. Viens, Seigneur, sers-toi de moi. » Au nom de Jésus. Amen.